Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Eh oui, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est en effet la libre antenne comme chaque vendredi. C'est vous qui faites le sommaire de l'édition. De quoi souhaitez-vous parler? Vous souhaitez réagir à l'actualité de ces dernières heures, de ces derniers jours, nous faire part d'un témoignage aussi? Eh bien, c'est le moment. L'antenne vous appartient. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Et nous allons sans plus attendre au standard où nous attend Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Pierre.
Vous nous appelez de Niamey, au Niger, et vous souhaitiez vous revenir sur la tragédie de Charlie Hebdo. Première question Bruno, qu'est-ce que ça représente Charlie Hebdo pour vous?
Moi j'ai un peu plus de 50 ans et j'ai grandi avec Charlie Hebdo et même avec son ancêtre, son prédécesseur
Harakiri,
qui avait été interdit dans les années 60. Et moi je suis en quelque sorte, j'ai baigné dans cette littérature depuis tout petit. Donc en fait j'ai pu voir l'évolution. Donc c'est intéressant parce que j'ai pu constater qu'ils ont toujours été contre le système en quelque sorte. Donc en fait, actuellement, là, le procès qu'il aurait fait d'anti-islamisme, je trouve qu'il est relativement, il n'est pas très juste.
Alors Bruno,
ils sont contre, ils sont autant. Oui.
On va y revenir. Déjà, comment a été commenté cet attentat autour de vous au Niger?
Alors, dans un premier temps, je tiens à souligner que mes collègues de travail, ils ont observé avec moi une minute de silence hier à midi, pour marquer notre sympathie avec les victimes de l'attentat. Ça a été aussi l'occasion de discussion. Mes enfants à l'école ont discuté, donc au lycée français de Niamey, et en fait, il y avait une unanimité contre, effectivement, les attentats qui ont été perpétrés, mais d'un autre côté aussi, la grande majorité des gens sont contre la publication des dessins du prophète. Ça, c'est une unanimité que j'ai ressentie avec les personnes avec qui j'ai pu discuter.
C'est-à-dire que pour beaucoup, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Le sacré, la religion, c'est sacré, on n'y touche pas.
Voilà, effectivement, le Niger est un pays extrêmement religieux, sans être vraiment oppressant. Les gens sont très respectueux et mon épouse, qui est musulmane d'ailleurs, elle a été profondément choquée par ces caricatures, ainsi que mes enfants. Et je pense que, a priori, je pense que c'est l'état général de la population.
Au Niger. Vous avez dit en préparant cette émission tout à l'heure hors antenne que vous estimez que l'Occident a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous souhaitiez dire exactement?
Parce qu'en fait, il faut aller au-delà de la caricature. Parce qu'en en fait, les caricaturistes, ils ne créent pas l'événement, ils le décrivent. Mmh. Donc en fait, quand ils font des caricatures, ils illustrent le fait, c'est que le message de paix et d'amour de l'islam est détourné à des fins politiques. Ouais. Mais s'il y a des gens qui le font, s'il y a des gens qui sont capables, parce que ça représente quand même un certain courage, de faire des actions d'attentat, et y compris en attentant à leur propre vie, c'est que, quelque part, ils sont contre une civilisation qui a une présence omnipotente au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est pas une guerre entre l'Occident et d'autres civilisations, c'est le fait que par sa puissance économique, l'Occident...
Ah, Bruno, on vous a...
Par sa puissance économique, l'Occident...
Bon, restez avec nous, Bruno. On va essayer de régler ces problèmes de ligne hors antenne. Je voudrais qu'on accueille pendant ce temps-là Fatih, qui nous appelle d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Bonjour, Fatih.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous souhaitiez revenir sur cette tragédie qui a frappé la France, cet attentat à Charlie Hebdo. Et vous dites qu'il faut s'interroger sur les conséquences de cet acte, c'est-à-dire, quelles conséquences?
Bon, je voudrais d'abord, là, avant de parler de conséquences, très rapidement dire que je comprends et que je partage toutes les émotions d'indignation et de condamnation d'un pareil crime. C'est inacceptable, on ne peut pas relativiser en ce cas-là. Mais il y a quand même en dehors, ou bien en plus des réactions spontanées que je considère comme saines et normales, et qui ont dépassé les frontières de la France. Hier, ici aux Pays-Bas, dans 30 villes, il y a eu des manifestations de soutien à Charlie Hebdo, entre autres Amsterdam, dont je vous parle. Il y a eu 18 000 personnes qui se sont rassemblées devant le Palais Royal. Mais, à part ces personnes que je considère comme des gens de bonne volonté, j'ai entendu, puis j'ai vu sur les petits écrans de la télé, des visages comme celui d'un leader porteur de, comment dirais-je, d'un des plus puissants messages d'islamophobie qui puisse exister en Europe en ce moment-ci. Bon, pour ne pas le nommer, c'est Monsieur Wilders, qui est apparu juste quelques heures après le crime, et avant même qu'on sache qui l'a perpétré, et les motifs, quelle est l'identité des gens, pour justement répéter son message habituel de condamnation de l'islam.
C'est-à-dire que cet attentat fait déjà monter le climat d'islamophobie partout en Europe et en particulier aux Pays-Bas ?
Oui, écoutez, ça fait quelque temps qu'on entend parler en Europe, par exemple, d'incidents islamophobes, par exemple en Suède, les derniers temps, où des mosquées ont été attaquées et brûlées. Aux Pays-Bas, dont je vous parle aussi, il y a eu pas mal d'attaques contre des mosquées. En Allemagne, il y a eu des
avec le mouvement Pegida, etc. Oui. Mais alors, à cet égard, Fatih, dimanche, à Paris, tous les partis politiques ont prévu de marcher ensemble pour démontrer l'unité nationale face au terrorisme, même s'il y a une polémique qui monte, puisque le FN estime ne pas avoir été invité, et donc la participation du Front National à cette marche pose encore question, en tout cas, et n'est pas encore actée. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette manifestation d'unité nationale des politiques français?
Une unité nationale pour condamner le crime est quelque chose qui ne peut être que positif. Mais ce dont j'ai bien peur, c'est la présence de gens qui tiennent, qui veulent exploiter justement ce crime pour leur but politique, pour régler des comptes ou bien pour obtenir des résultats politiques qu'ils ne peuvent pas obtenir par leur message. Ils veulent profiter de l'émotion des gens. Et je devrais dire quelque chose aussi, il ne s'agit pas uniquement de la France, il ne s'agit pas uniquement de l'Europe, mais ça dépasse le cadre européen, par exemple. Il y a même dans des pays arabes, musulmans, par exemple, quand je lis que le roi d'Arabie Saoudite, qui a écrit au président français pour condamner le crime contre un média d'opinion publique, bien écoutez, je me pose des questions, la liberté de la presse chez lui. Eh bien, s'il y a des journalistes qui essaient de toucher à ça, je ne voudrais pas être à leur place. Donc, il y a toute une exploitation, et là, je dis, il faut se méfier.
Ouais, il faut se méfier, il faut peut-être manifester. On le voit en France, il y a beaucoup de manifestations pour rejeter l'obscurantisme de part et d'autre. Depuis mercredi, on doit le dire aussi ici, beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission, et pas forcément de soutien à Charlie Hebdo. Beaucoup de gens nous font part de leurs sentiments, à l'instar de ce que nous racontait Bruno tout à l'heure à Niamey. De sentiments sur l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo. Je vous livre quelques-uns de ses commentaires. Moussa, par exemple, estime que la liberté de la presse ne doit pas servir de moyen de provocation. La religion, c'est sacré. Laissons-la de côté et débattons d'autre chose. Bassirou, par ailleurs. Je suis musulman qui vit dans un pays laïque, qui garantit la liberté de la presse et d'expression, mais en aucun cas on ne peut s'attaquer à la religion d'autrui par les caricatures de leurs prophètes. Cela dit, je ne suis nullement pour la violence pour se faire justice. Et puis Salimata encore, pourquoi ce journal Charlie Hebdo persiste à offenser les musulmans à travers notre prophète? Nous musulmans sommes d'abord et avant tout les plus grandes victimes du terrorisme. Voilà qui illustre en tout cas un débat dans lequel Charlie Hebdo avait depuis longtemps choisi sa position. Pour les plumes de Charlie, on le sait bien, on devait rire de tout et surtout des religions. Un avis donc que ne partage pas un certain nombre de nos nos auditeurs qui le font savoir sur Internet, et nous devons aussi faire entendre ces voix, bien sûr. 33 9 693 693 70, et nous passons à un tout autre sujet. Tidiane, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dakar et vous souhaitiez revenir sur ce coup d'État manqué en Gambie. Je rappelle, hein, on en parlait en première partie, mais à toutes fins utiles, que le 30 décembre, c'était, on en parlait tout à l'heure, un groupe d'une douzaine de putschistes a tenté de prendre le palais présidentiel à Banjul, profitant de l'absence du président Yahya Jammeh, tentative qui a échoué. Deux Américains d'origine gambienne ont été arrêtés pour leur participation présumée, et au Sénégal, un opposant gambien a été lui aussi arrêté. Il s'appelle Cheikh Sidia Bayo. Vous, pourquoi vous souhaitiez revenir en particulier sur ce coup d'État en Gambie? Ça ne vous étonne pas, en fait, cette tentative de putsch?
Vous avez parfaitement raison. Ce coup d'État, ça ne m'étonne pas. Mais je commencerai d'abord à présenter mes condoléances au peuple français par rapport à ces événements survenus à Charlie Hebdo, au nom de la liberté de la presse. En ce qui concerne cette tentative de coup d'État, comme j'ai eu à le dire, ça n'étonne personne au Sénégal, parce que depuis quelques années, le peuple gambien manque d'une liberté claire, de liberté d'expression. Car nous n'ignorons pas que le président Jammeh a pu museler les opposants gambiens, et la presse est quasiment muette dans ce pays. Mmh. Personne n'ose s'exprimer dans ce pays sous peine de ne pas être emprisonné, voire liquidé.
Vous qui êtes à Dakar, vous avez, j'imagine, des amis gambiens ou des gambiens autour de vous?
Parfaitement, vous avez parfaitement raison. J'ai des amis gambiens, j'ai même de la famille lointaine en Gambie. De temps en temps, ils sont à Dakar. Et c'est eux qui m'ont donné certaines informations, et nul n'ignore au Sénégal. Même si on fait tout souvent la traversée pour aller en Casamance, on sait ce qui se passe. Mmh. Et ces événements, d'ailleurs, c'est la chasse à l'homme. Les gens n'osent pas prendre la... les gens n'osent pas traverser vers la Gambie, parce que c'est des vies à ne pas finir dans cette localité.
Mmh. L'arrestation de cet opposant gambien par le Sénégal que j'évoquais à l'instant, qu'est-ce que ça vous inspire?
Vous avez parfaitement raison. Je suis tout à fait en phase avec l'analyse de Karine, en quelque sorte. Je pense bien que ce que Jammeh doit savoir, le Sénégal n'est impliqué ni de près ni de loin par rapport à ce putsch qui est survenu sur le sol gambien. À ce que je sache aussi, cet opposant, il a le droit de s'exprimer au nom de la liberté d'expression. Ça, il faut le dire.
Le fait que, grâce à sa double nationalité, je crois, hein, il est aussi français, il risque d'être expulsé vers la France, qu'est-ce que ça vous inspire, ça aussi?
Bon, ça me fera mal qu'on l'expulse en France, mais je sais pertinemment que les autorités sénégalaises le feront. C'est surtout par rapport à la résolution des pourparlers de paix au niveau de la France.
C'est-à-dire qu'il faut ménager Yahya Jammeh, pour maintenir, une politique en Casamance, le processus de paix en Casamance, c'est ça?
Très bien, parce que l'actuel gouvernement tient beaucoup par rapport à ce processus de paix, et Jammeh s'est impliqué par rapport à cette voie, parce qu'il le disait au début de ses pourparlers. L'ancien gouvernement ne m'a jamais impliqué par rapport à ces pourparlers. Je suis vraiment content que je vois qu'on tient la main par rapport à ces pourparlers. Mmh. Et là, je pense bien que Macky est intelligent, le gouvernement sera vraiment intelligent, à telle enseigne qu'ils feront tout pour rapatrier cet opposant vers la France.
Merci beaucoup, Tidiane, en ligne de Dakar. Retour au standard pour accueillir Drissa, qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour, Drissa.
Oui, bonjour.
Vous souhaitiez revenir sur le procès de Simone Gbagbo et de ses 81 co-accusés, procès qui a démarré fin décembre, qui a été ajourné, puis qui a repris mardi, hein, devant la cour d'assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Je rappelle que l'ex-première dame est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle est réclamée aussi par la Cour pénale internationale, hein, où son mari, Laurent Gbagbo, est emprisonné depuis 3 ans, et il attend toujours son procès, mais Abidjan refuse de la transférer à La Haye, estimant que la justice ivoirienne est parfaitement à même de la juger. Drissa, c'est aussi votre avis? Simone Gbagbo doit être jugé en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire seulement?
Oui, je vous remercie. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à la France. Je voudrais reformuler donc votre question en disant que pourquoi Simone Gbagbo est-elle poursuivie en Côte d'Ivoire alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt, la CPI? En réalité, c'est ça. Je voudrais faire remarquer que mon avis, c'est que la justice ivoirienne, aujourd'hui, doit juger Mme Gbagbo en bonne et due forme pour deux raisons. La première raison, c'est la crédibilité donc, de la justice en Côte d'Ivoire. Et la deuxième raison, c'est d'éviter, c'est politiquement, de choquer l'opinion nationale et internationale. En ce qui concerne la crédibilité de la justice en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, nous évoquons donc la question de l'exception d'irrécevabilité, puisqu'il y a déjà des poursuites à l'encontre de l'ex-première dame au niveau national en Côte d'Ivoire. Vous savez également que selon le principe de la complémentarité établi par le statut de Rome, la responsabilité première de juger les crimes les plus graves revient donc au pays.
La Cour pénale internationale est déjà en possession, si j'ose dire, de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, et donc a estimé que la Côte d'Ivoire n'était pas capable de les juger. Pourquoi la situation aurait-elle changé avec Simone Gbagbo?
Non, la situation change avec Simone Gbagbo, comme je le dis, pour éviter surtout de choquer la sensibilité des gens, l'opinion nationale, l'opinion politique.
Mais au moins, donc c'est un procès qui est nécessaire, qu'on soit clair, qu'on clarifie votre position. Pour vous, ce procès est nécessaire à la réconciliation en Côte d'Ivoire?
Oui, il est nécessaire à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, c'est-à-dire normalement au moment où l'ex-président Laurent Gbagbo partait à la CPI, la Côte d'Ivoire, effectivement, on ne pouvait pas chercher à ajouter Laurent Gbagbo ici parce qu'on estime qu'on n'avait pas les rudiments nécessaires. Mais aujourd'hui, le pays est rétabli, les institutions fonctionnent normalement. Nous disons que la justice ivoirienne est assez autonome et a tous les rudiments judiciaires pour pouvoir juger Mme Gbagbo.
On a bien compris votre position. Merci beaucoup, Drissa, en ligne d'Abidjan. Retour au standard pour évoquer maintenant un tout autre sujet, le Burundi. Jean-Marc est avec nous. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour monsieur, bonjour aux éditeurs de la RFI.
Rappelons qu'au Burundi, il y a quelques jours, des affrontements meurtriers ont opposé les forces de l'ordre à un mystérieux groupe rebelle dans l'ouest du pays. Et puis des hommes armés ont aussi de leur côté assassiné 3 militants du parti au pouvoir dans l'est. Tout ça dans un contexte électoral, puisque des élections générales sont prévues à la mi-2015. Et vous dénoncez, vous déplorez, vous craignez ce climat d'extrême tension à l'approche de ces élections, c'est ça?
Effectivement, comme vous venez de le dire, après cette attaque, beaucoup de Burundais continuent de se poser beaucoup de questions sur l'identité de ce groupe, les leaders de ce dernier, et sur l'identité de ces groupes armés. Et les Burundais se posent d'autant plus beaucoup de questions qu'aucun communiqué officiel du gouvernement n'a été fait jusqu'ici.
Il y a un manque total d'information et de transparence, c'est ça?
Oui.
Et c'est de nature à... Ça aggrave ce climat, selon vous?
Oui, ça aggrave ce climat et beaucoup de gens continuent à se poser beaucoup de questions que ce genre d'attaque ne puisse être, utilisé comme il n'y a pas beaucoup de communication pour écarter certains, comme vous venez de le dire, d'autant plus qu'on est à l'approche des élections générales ici au Burundi qui s'annonce très très tendue ici.
Ah, Jean-Marc. Bon, on a perdu Jean-Marc en ligne du Burundi qui a évoqué avec nous ce climat de tension qui monte à l'approche des élections au Burundi. Donc on n'a plus le temps malheureusement de prendre un nouvel auditeur. Merci à tous et encore mes excuses à Yvan et Blaise notamment qui attendaient au standard de pouvoir intervenir. Lundi, c'est Juan Gomez qui revient aux commandes de son émission. Avec lui, vous pourrez revenir encore une fois sur l'affaire, la tragédie de Charlie Hebdo, d'autant que les choses s'accélèrent depuis ce matin, depuis quelques minutes d'ailleurs. On va l'évoquer bien évidemment dans le journal d'Alexis Fricker dans quelques instants.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.
Et avant le journal...